en temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 14 mai, Chérubin Dorcil à Washington, accompagné de Morgane Guiriec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, Washington annonce des sanctions contre 5 personnalités centrafricaines, dont les ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia.
J'ai dit que dès l'instant où M. Djotodia, que je combattais, a démissionné, ma lutte est terminée. Je m'inscris dans la logique de la réconciliation nationale et de la paix.
Lévi Yakété, l'une des personnes visées par les sanctions. Nigeria, le gouvernement serait prêt à négocier avec Boko Haram la libération des lycéennes enlevées le mois dernier.
Ce que nous voulons le plus, c'est que nos filles s'en sortent vivantes.
Réaction d'une organisation luttant pour la libération de ces jeunes filles. En Turquie, les opérations de secours se poursuivent après l'explosion d'hier qui a fait au moins 238 morts dans une mine de charbon. Sans oublier les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Au Nigeria, le gouvernement se dit ouvert à des négociations avec la secte Boko Haram au sujet de la libération des jeunes filles enlevées. Le gouverneur de l'État de Borno a confirmé l'identité de celles qui sont apparues dans une vidéo de Boko Haram. Bagassi Koura.
Kashim Chetima a affirmé à l'issue d'une projection publique qu'il s'agit bien des lycéennes enlevées le mois dernier. Lundi, Boko Haram a publié une vidéo de 17 minutes montrant une centaine de jeunes filles recouvertes de la tête aux pieds par un hijab et assises dans une zone rurale. Pour ce groupe islamiste, elles font partie de près de 300 jeunes filles qui ont été enlevées il y a un mois jour pour jour dans le nord-est du pays. Dans cette vidéo, le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, demande la libération des combattants en échange des jeunes filles kidnappées. Mardi, un ministre nigérian, Tanimu Tukari, a affirmé que le gouvernement est ouvert au dialogue avec Boko Haram. Pendant ce temps, les recherches pour retrouver les captives s'intensifient. Après les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et Israël, le Canada a annoncé l'envoi d'une force spéciale au Nigeria.
Le président américain Barack Obama a annoncé des sanctions contre les deux ex-dirigeants centrafricains François Bozizé et Michel Djotodia. Sont également sanctionnés Lévi Yakété, un proche de Bozizé, et deux ex-Séléka, Noureddine Adam et Abdoulaye Miskine. Les cinq sont accusés par la Maison-Blanche de contribuer aux violences en Centrafrique. La réaction de Lévi Yakété.
C'est vraiment un sentiment de grande déception et de révolte lorsque je vois que c'est des grandes nations qui commettent de telles erreurs et qui accusent quelqu'un comme moi sans en avoir la moindre preuve, mais sous la base des dénonciations calomnieuses, des mensonges cousus en fil blanc. J'ai beaucoup de respect pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai beaucoup de respect pour la grande nation qu'est les États-Unis d'Amérique. Mais lorsqu'elles se permettent de prendre des décisions à la sauvette sous l'emprise de l'émotion et de mensonges, c'est regrettable. Et moi, en tant que citoyen centrafricain, décidé à défendre mon pays et mon peuple, je reste serein. Je n'ai rien à me reprocher, mais je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que la vérité triomphe.
Lévi Yakété, coordonnateur politique du mouvement de résistance populaire pour la refondation de la Centrafrique, qui comprend des anti-Balaka et des ex-Faka. Nous l'écouterons plus en détail dans la seconde partie de l'émission.
Entre-temps, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, a officiellement lancé ce matin un double projet d'appui aux maraîchers et cultivateurs de Bangui et ses environs pour relancer la lutte contre l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, le corps de la journaliste Camille Lepage a été ramené à Bangui. On fait le point avec Timothée Donangmaï.
Environ 300 millions de francs CFA ont été octroyés par Mme Samba Panza à la première phase du projet dont les bénéficiaires sont pour la plupart des jeunes et des femmes déplacées des communes de Bangui, Bimbo et Begua. L'objectif, selon la présidente de la transition, c'est de réduire l'insécurité alimentaire. Ailleurs, à l'intérieur du pays, l'insécurité persiste. Aujourd'hui, le représentant de la préfecture de la Kémo, Marcelin Yoyo, est monté au créneau pour réclamer la sécurité et la restauration de l'autorité de l'État dans sa région.
Dans une partie de la Kémo, à savoir la sous-préfecture de Sibut et de Ndjoukou, il n'y a aucune autorité politico-administrative. Depuis que la SELEC a quitté la ville, aucune autorité n'est allée là-bas. C'est pour dire que la population est comme ça. Ce n'est pas quand même un gouvernement du centre-ville de Bangui. C'est un gouvernement de la République. Il devait aller sur le terrain, regarder un peu le peuple. Que vit ce peuple ? En réalité, tout est détruit.
Signalons que le corps de la journaliste française Camille Lepage a été transféré ce mercredi à Bangui. La nouvelle de sa disparition a créé une vive émotion au sein de la corporation, d'autant que deux journalistes centrafricains ont été tués au début du mois à Bangui.
L'Union européenne menace de prendre des sanctions contre les dirigeants du Soudan du Sud s'ils ne respectent pas l'accord signé vendredi dernier. C'est ce qu'indique l'agence France-Presse qui cite Alexander Wondos, le représentant spécial de l'UE pour la Corne de l'Afrique. Les sanctions sont prêtes, elles pourront être adoptées si la situation l'exige, a-t-il déclaré devant la presse à Bruxelles. Cet accord signé par le président Salva Kiir et son rival, l'ex-vice-président Riek Machar, prévoit un cessez-le-feu, mais les factions belligérantes sont accusées de ne pas avoir respecté cette trêve. La semaine dernière, Washington a annoncé des sanctions contre deux leaders militaires, l'un issu des forces gouvernementales, l'autre de la rébellion.
Des changements dans le secteur de la justice au Mali. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni en session ordinaire. Le procureur général près de la cour de Bamako, Daniel Tessogué, reste à sa place. 119 magistrats ont été mutés ou permutés d'un tribunal à un autre. Les travaux de ce conseil ont été présidés par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, Kassim Traoré.
D'entrée de jeu, le président de la République a fait une intervention de 15 minutes. Ibeka a aussitôt insisté sur le maintien du procureur général près la cour d'appel de Bamako, qui, selon lui, est un homme intègre. Au cours de cette session, le conseil a examiné et délibéré le projet portant nomination de 119 magistrats du ministère public et de justice de paix à compétences étendues. Comme l'a souhaité le président de la République, le procureur général près la cour d'appel de Bamako, Daniel Tessogué, reste à son poste. Le procureur de la commune 1 est le magistrat Koïta, alors que Oumar Sogoba vient en commune 2. Alou Nampé, précédemment en commune 2, va en commune 3 du district de Bamako. Mamadou Bandjougou Diawara, Suleiman Doumbia et le magistrat Samake sont respectivement les procureurs des communes 4, 5 et 6 du district de Bamako. En plus de Bamako, il y a eu des mutations dans les autres juridictions du pays. Il faut signaler que les mutations de cette session ne concernent pas les présidents des tribunaux, les juges d'instruction et les juges au siège. Dans deux semaines, ça sera la mutation de ceci. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Procès Oscar Pistorius en Afrique du Sud. Le juge a ordonné que le coureur paralympique subisse des tests psychiatriques. Mesure prise suite à un témoignage affirmant qu'il souffrait de troubles d'anxiété, maladie provoquant la peur et l'inquiétude. Rappelons qu'Oscar Pistorius est accusé d'avoir assassiné sa petite amie à son domicile l'an dernier. Il affirme qu'il pensait tirer sur un intrus, mais l'accusation prétend le contraire et parle d'un meurtre délibéré.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 238 morts, c'est le bilan provisoire de l'explosion survenue hier dans une mine de charbon en Turquie. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan s'est rendu sur les lieux de la tragédie où les secours sont toujours à pied d'œuvre. Les explications d'Issana Pont.
Dans la localité de Soma, au sud d'Istanbul, les sauveteurs ont pompé de l'air frais dans la mine où ils essaient d'atteindre 100 à 150 mineurs encore bloqué sous terre, selon un responsable syndical. Le président turc Abdullah Gül a décrété la mobilisation de tous les moyens pour venir en aide aux mineurs. Le Premier ministre, quant à lui, s'est rendu sur les lieux à la tête d'une équipe gouvernementale après avoir reporté un voyage prévu en Albanie. Recep Tayyip Erdogan a décrété 3 jours de deuil national. Près de 800 personnes étaient à l'intérieur de la mine de charbon lorsqu'un incendie s'est déclaré suite à l'explosion d'une unité électrique, selon certains officiels. Les mines de charbon turques sont de plus en plus dangereuses, incitant certains parlementaires à demander une investigation sur les conditions de sécurité.
L'Ukraine organise ce mercredi une rencontre sur le thème de l'unité nationale, un jour après le meurtre de 7 soldats gouvernementaux par les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Le président intérimaire Oleksandr Turchynov, son premier ministre Arseniy Yatsenyuk, Les députés nationaux et les responsables régionaux prennent part à ces assises à Kiev. La rencontre se situe dans le cadre de la feuille de route proposée par l'OSCE. Les rebelles séparatistes ne sont pas présents à ces entretiens. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine est au bord de la guerre civile et que toute solution à la crise doit satisfaire toutes les régions du pays.
Les négociateurs entre l'Iran et le groupe des six ont tenu une nouvelle série de pourparlers à Vienne, en Autriche, dans le but de forger un accord durable sur le nucléaire iranien. Ils doivent parvenir à une entente au plus tard le 20 juillet. Cet accord sur le long terme serait la suite de l'accord intérimaire signé en novembre dernier et qui prévoyait des limites aux activités nucléaires de Téhéran en échange d'un certain allègement des sanctions occidentales. En revanche, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et l'Allemagne veulent des garanties que l'Iran ne cherche pas à obtenir l'arme nucléaire.
Regain de tension en mer de Chine méridionale autour de certaines actions de Pékin concernant des territoires en litige. En conséquence, des citoyens chinois résidant au Vietnam ont entamé la traversée vers le Cambodge. Ils fuient les manifestations violentes organisées contre la Chine suite à la décision de Pékin de relocaliser une plateforme pétrolière près d'un groupe d'îles considéré par le Vietnam comme étant dans sa zone économique exclusive.
Une nouvelle collection de 33 lettres de Jacqueline Kennedy, ancienne première dame des États-Unis, révèle certaines de ses pensées les plus secrètes. Ces lettres, écrites au prêtre irlandais Joseph Leonard, couvrent une période allant de 1950 à 1964, donc de son mariage à John Fitzgerald Kennedy jusqu'après son assassinat. La collection sera mise en vente aux enchères le mois prochain et pourrait rapporter plus d'un million de dollars.
Voilà pour le journal. Il est 18h41 en temps universel, 14h41 ici à Washington, chez Ruben Orsil en compagnie de Morgane Guériec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Dossier Centrafrique, le président américain Barack Obama a annoncé hier des sanctions contre les deux ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia, sont également sanctionnés par décret présidentiel. Un dirigeant politique des anti-Balaka, Lévi Yakété, et deux ex-rebelles, Noureddine Adam, ministre de la Sécurité sous Djotodia, et Abdoulaye Meskine, un dissident de Séléka.
Les cinq hommes sont accusés de contribuer aux violences en Centrafrique. Ils verront leurs biens aux États-Unis gelés et seront interdits d'entrer sur le territoire américain. Ces sanctions interviennent quatre jours après celles prononcées par le Conseil de sécurité contre messieurs Bozizé, Yakété et Adam. Joint par la Voix de l'Amérique, le coordonnateur politique du MRPRC, Lévi Yakété, s'est dit déçu et révolté.
Aujourd'hui, on m'accuse d'être celui-là qui était à Bangui le 5 décembre et qui a distribué des maquettes aux anti-Balaka alors que moi, je suis absent de la République centrafricaine depuis le 15 mars 2013. Par quel bâton magique je me suis retrouvé en Centrafrique pour organiser les anti-Balaka et leur distribuer des maquettes. Les anti-Balaka, c'est la population centrafricaine qui s'est révoltée contre la barbarie de la Séléka dont aucune nation au monde n'a osé dénoncer pendant 10 mois, moins les États-Unis d'Amérique, moins la France, qui a demandé aux Nations Unies de nous sanctionner. La Charte des Nations Unies, dans son considérant numéro 2, a dit que le peuple a droit à se révolter contre l'oppression.
Est-ce que vous ne pensez pas que ce que l'on vous reproche, c'est par rapport à une certaine responsabilité, notamment dans votre discours, par exemple ?
Je m'attaque dans mon discours, dans toutes mes déclarations, aux actes de la Séléka. Moi, j'ai considéré au début les anti-Balaka comme des patriotes, tout en condamnant des actes de débordement, des dérives criminelles de certains groupes. Mais j'avais déclaré par la voie des écrits que j'ai envoyé au secrétaire général des Nations Unies, aux membres du Conseil de sécurité, à Mme Powell, qui représente les États-Unis, Mme Samantha Powell, est la copie de ma déclaration. J'ai dit que dès l'instant où M. Djotodia, que je combattais, a démissionné, ma lutte est terminée. Je m'inscris dans la logique de la réconciliation nationale et de la paix. J'étais disposé à rentrer à Bangui. Personne n'a voulu accepter ma main tendue. Et je suis en France depuis novembre 2013.
Mais de quelle garantie auriez-vous besoin? C'est votre pays, pourquoi ne rentrez-vous pas librement dans votre pays?
Vous voulez que je rentre à Bouygues comme M. Nguessona pour que aujourd'hui, bon, qu'on a accusé pendant un certain temps d'avoir activé les anti-Balaka, qui s'est autoproclamé coordonnateur des anti-Balaka, et qu'on oublie aujourd'hui et qu'on se retourne contre M. Yakété?
Lévi Yakété, un responsable des anti-Balaka, était joint en France par Nathalie Barge.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Au Nigeria, les organisations des droits humains élèvent le ton après l'enlèvement de près de 300 jeunes filles par Boko Haram.
Pour elles, l'enlèvement des femmes et des filles au Nigeria est un problème beaucoup plus vaste et les ravisseurs ne sont presque jamais punis. Jean-Roger Billon.
Le gouverneur de l'État de Borno, Kashim Shettima, a fait une confession de taille cette semaine. Selon lui, avec l'enlèvement des filles de Chibok le mois dernier, Boko Haram n'était pas à son premier coup dans le genre. Jusque-là, il en avait été simplement empêché. Les populations de l'État de Borno disent que c'est une tradition chez ce groupe de kidnapper les femmes et les filles et de les obliger à épouser les insurgés. L'actrice Dorothée Ndjemanze a échappé de justesse à un enlèvement à Abuja il y a 2 ans, après avoir été battue et agressée.
Now we're here talking about another spate of abductions.
Si nous dénonçons maintenant cette vague d'enlèvement, c'est parce que d'autres ont été passés sous silence. Ils ont été encouragés par le silence du gouvernement et ils sont passés à la vitesse supérieure. Honnêtement, mon cœur est brisé.
Les kidnappings sont également en hausse dans le delta du Niger, la région pétrolière dans le sud du pays, où les activistes sont en rébellion permanente contre les compagnies pétrolières et le gouvernement. L'avocat Félix Obasowan explique que le problème persiste ici, pour la même raison que dans le nord. Même lorsque les ravisseurs sont capturés et arrêtés, ils ne sont presque jamais condamnés, assure-t-il. Une campagne médiatique dénommée « Bring Back Our Girls » a été lancée pour retrouver les lycéennes encore entre les mains de Boko Haram. Le coordonnateur de la campagne, Rotimi Oluwale, insiste sur la sécurité des filles.
What we want the most is that our girls come out alive.
Ce que nous voulons le plus, c'est que nos filles s'en sortent vivantes. Après cela, nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour nous assurer que cela ne se reproduise pas et que les enlèvements soient réduits au strict minimum.
Le gouvernement nigérien a réitéré ce mercredi qu'il explore toutes les options pour la libération et le retour en toute sécurité des jeunes filles.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, tout sur Boko Haram. Le sort des jeunes filles enlevées par le groupe islamiste nigérian continue de mobiliser la planète. Au-delà du kidnapping, beaucoup de questions demeurent. Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Nous partons maintenant en République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, les femmes de Goma ont trouvé une formule pour éviter le chômage, Gabi.
Elles sont très nombreuses ces derniers jours, le long des routes, dans les marchés, dans les boutiques et dans les salons de coiffure, pour contribuer tant soit peu à la survie de leur famille. Mais comment? Écoutons depuis Goma, au Nord Kivu, Primo Pascal Rudaigua.
Le métier de coiffeur attire de plus en plus les femmes sans emploi dans la ville de Goma. Interrogées à ces sujets, quelques-unes d'entre elles reconnaissent qu'elles commencent par apprendre, ensuite elles se perfectionnent pour éviter le chômage.
Ce métier connaît beaucoup de profanes ces derniers temps et cela s'explique par le fait que ces femmes manquent d'occupation. Elles évitent de cette façon de tomber dans des antivaleurs. Eh bien, quand la vie devient difficile, que faire sinon créer des emplois?
Plusieurs autres femmes préfèrent s'installer le long de la route pour éviter les exigences des tenanciers des salons de coiffure.
Quand nous travaillons formellement, les tenanciers des salons de coiffure sont exigeants envers nous. L'on nous fait payer des pourcentages de l'argent produit ou carrément, l'on nous interdit d'effectuer des activités rentables. Au lieu de nous disputer pour rien, on a résolu d'aller sur la route.
Dans ce travail, elles tiennent également compte de la propreté du milieu et de la santé de leurs clientes pour éviter les maladies contagieuses à travers les objets tranchants.
Nous amassons toutes ces mèches éparpillées devant les boutiques et nous les brûlons. Pour nos matériels comme les guilles, après usage, nous la stérilisons. La lame de rasoir, on l'utilise une fois seulement. 2 fois, il y a des clientes qui refusent que nous utilisions nos matériels. Elles s'en procurent sur place et après usage, elles rentrent avec.
Les clientes sont nombreuses et apprécient la qualité du service rendu par ces femmes.
J'ai choisi cet endroit pour me faire coiffer, convaincue du travail de qualité qu'elle me rend. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Les usagers de ces matériels sont moins nombreux. La femme qui me tresse ici fait la propriété de ces peignes.
Avec ce travail de coiffure, ces femmes ne gagnent pas moins de $50 par semaine, soit $200 par mois, ce qui constitue une bonne bourse pour la plupart d'entre elles. Goma, Primo Pascal Rudahigua, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Soleil FM, fréquence verte, à Butembo, province orientale. La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga. La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Vous l'avez peut-être entendu dans les nouvelles, la Cour de justice de l'Union européenne a tranché contre Google dans une affaire de droit à l'oubli numérique. Expliquez-nous, Morgan.
Hier, elle a estimé que le moteur de recherche est responsable du traitement des données personnelles qui apparaissent sur ces pages. Conséquence, les usagers peuvent obtenir la suppression des liens vers des pages Internet comportant des données personnelles. Un arrêt attentatoire à la liberté de l'information, explique Grégoire Pouget, responsable du bureau Nouveaux Médias à Reporters sans frontières.
C'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que finalement, cette décision, qu'est-ce qu'elle valide ? Elle valide le fait que des utilisateurs, des individus, vont avoir la possibilité de demander à des moteurs de recherche, en l'occurrence dans le cas très précis dont on se parle, c'est Google, mais ça va s'étendre à tous les moteurs de recherche. Donc des utilisateurs vont avoir la possibilité de demander à ce que des résultats qui apparaissent lorsqu'ils tapent le nom dans un moteur de recherche soient supprimés de l'index des moteurs de recherche. Donc c'est une forme de censure, c'est-à-dire qu'au nom du droit à l'oubli, au nom de la protection des données personnelles, on empiète sur la liberté de l'information. Les résultats pourront être demandés à être retirés, même s'ils sont légaux, si l'utilisateur les considère comme contraires à ses intérêts. Donc c'est extrêmement vague et beaucoup de contenus risquent d'être désindexés des moteurs de recherche. Alors ils ne disparaîtront pas d'Internet, puisque là où cette décision est plutôt incohérente, c'est que les contenus en question ne sont pas supprimés des sites qui les hébergent, mais juste des moteurs qui les référencent. Donc, autant dire que si le contenu n'est plus accessible, c'est comme s'il disparaissait d'Internet.
Donc vous parlez d'un arrêt attentatoire à la liberté de l'information, mais alors que fait-on du respect de la vie privée ?
Là, on a porté la responsabilité et le respect de la vie privée sur des moteurs de recherche qui ne font que indexer des contenus qui existent déjà. On se trompe de cible, ce n'est pas un intermédiaire technique de faire le tri, ce n'est pas à Google, à Bing, à Yahoo, à qui sais-je, de faire le tri des liens qui les référencent, mais c'est bel et bien au site qui héberge les contenus de faire attention au type de contenu qu'ils hébergent.
Et concernant le droit à l'oubli ?
Alors, le droit à l'oubli, pour Reporters sans frontières, c'est un problème. Le droit à l'oubli, ça, à ma connaissance, ça n'existe pas dans aucune législation. Le droit à l'oubli, qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas. Le droit à l'oubli, en tout cas, le fait de demander à oublier des informations, c'est dangereux parce que quelle est la différence entre la protection des données personnelles et ce fameux droit à l'oubli et finalement la manipulation de l'information ? Là, la limite est extrêmement ténue et je pense malheureusement que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne a carrément dépassé cette limite.
Grégoire Pouget, responsable du bureau Nouveaux Médias, Reporters sans frontières.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la Voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamérique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
On reçoit en studio Bagassi Koura pour les sports. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Plein feu sur le Brésil, à un mois de la Coupe du Monde, l'entraîneur de la Seleção et dans des problèmes.
Oui, le sélectionneur du Brésil, donc Luis Felipe Scolari, a été mis en examen pour fraude fiscale au Portugal. L'enquête porte sur des faits remontant à la période 2003-2008 quand Felipao, comme on l'appelle, était sélectionneur du Portugal. La justice portugaise reproche à Luís Felipe Scolari de ne pas avoir déclaré des gains de 7 millions d'euros. Selon le journal brésilien Folha de São Paulo, cité par l'AFP, Scolari a démenti avoir commis quelques irrégularités que ce soit.
Tu sais ce que ça veut dire, Felipao?
Non, dites-moi alors.
Le gros Philippe.
Ah, ok.
En football toujours. Ce soir, la finale de la Ligue Europa.
Oui, et elle oppose le FC Séville d'Espagne au club portugais, le Benfica de Lisbonne.
Et Bagassi, le gouvernement anglais ne croit pas aux chances de son équipe en Coupe du Monde, c'est ça?
Oui, l'Angleterre n'ira pas loin. Hein. C'est ce que laisse croire un document du ministère anglais de l'Intérieur qui souligne que l'équipe nationale risque de ne pas survivre à la phase initiale des poules au Brésil. Je ne sais pas, Chérubin, si vous étiez joueur, ce que vous alliez, comment vous alliez
c'est
prendre
bon
ça.
C'est bon de savoir ce que votre gouvernement pense de vous.
C'est la réaction d'un parlementaire de l'opposition travailliste. Si en Angleterre, donc, on est sceptique, en Allemagne, c'est le public plutôt qui est sceptique, puisque là-bas, seulement 6% des Allemands croient que leur équipe remportera la Coupe du Monde au Brésil.
Oui, il faut dire que l'équipe fait partie des favoris du tournoi, cependant. Seulement 11% des personnes interrogées pensent qu'elle atteindra la finale.
Oui, 11% seulement, alors que l'Allemagne et à côté du Brésil sont les deux grands favoris. Et une grande partie des Allemands, 41%, pensent que la sélection nationale dirigée par Joachim Löw s'arrêtera au stade même des demi-finales. Et l'équipe allemande sera même battue dès les quarts de finale.
En tennis, un mot sur le Master de Rome.
Oui, le Suisse Roger Federer, c'est l'information du jour, a été éliminé au deuxième tour du Master 1000 de Rome par le Français Jérémy Chardy en 3-7, 1-6, 6-3, 7-6.
Et en basketball, dans la NBA, on parle encore des demi-finales régionales.
Oui, le Thunder d'Oklahoma City, grâce à un Russell Westbrook des Grands Soirs, est revenu mardi de très loin pour battre sur le fil les Los Angeles Lakers 105-104 et n'est qu'à une victoire de la finale en conférence Ouest. À l'Est maintenant, Indiana a grillé son premier joker pour se qualifier en finale en se faisant battre à domicile par Washington 102-79 et Washington qui revient donc à 2-3 dans cette série.
Et le sixième match se déroulera ici à Washington, donc on se croise les doigts.
On fera le 3-3 ici.
On l'espère bien. Merci Bagassi Koura.
Allez, c'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Iggy Azalea est une auteure, compositeur, mannequin et rappeuse australienne. Son père était un artiste comique, peintre et sa mère nettoyait les maisons de vacances et hôtels. Aujourd'hui, cette jeune demoiselle a un album The New Classic qui cartonne Morgane. Ce soir, on écoute sa chanson Fancy qui occupe la 7e place dans le hit parade américain cette semaine.
First things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics.
Right, right.
You should want a bad bitch like this.
Huh?
Drop it low and pick it up just like this.
Yeah.
Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist.
On my wrist.
Taking all the liquor straight. Never chase that.
Never.
Stop like we bring an 88 back.
What?
Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that.
I'm so fancy.
Over all, I thought you knew that I'd be the IGGY, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw.
I'm so fancy.
Voilà, merci Roger pour cette page musicale. Roger Muntou, je rappelle, vous le retrouvez tous les soirs à 20h, temps universel dans le RM Show.
Et c'est ici que prend fin Le Monde Aujourd'hui, qui a été mis en onde par Michel Joseph. Ici Chérubin Dorsil
et Morgane Guiriec.
Écrivez-nous sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique et rendez-vous dans une demi-heure.
Feel so good.
little stunt how you love that. Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it.